terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 107e émission, 27e émission de la 8e saison. Aujourd'hui, nous parlerons de la quadrature du net de Storalka, sans oublier l'incontournable revue de presse de l'April, proposée par Luc Fievet et Emmanuel Charpentier, qui nous l'ont enregistré en direct du pique-nique de l'April. Nous aurons aussi Pascal Rullier au téléphone, qui était en vadrouille, notamment pour un quadrature Rapéro et qui nous parlera aussi un petit peu de ce qui se passe à Strasbourg dans les préparatifs des rencontres mondiales du logiciel libre. Ensuite, nous parlerons de la quadrature du net, non pas avec Jérémy Zimmermann qui est entre Parmons et Parvaux en ce moment, mais avec Félix Tréguier, chargé de mission qui assure le suivi des différents dossiers institutionnels et juridiques sur lesquels la quadrature se mobilise. Et puis nous parlerons aussi de Storalka, puisque Jean-Roch Rossi viendra nous en parler. Il dirige cette EURL qui propose le premier serveur low cost, haute disponibilité et tolérant aux pannes à destination des particuliers, des PME, des associations. Et puis nous terminerons par quelques petits rendez-vous de l'agenda du libre, le tout entrecoupé de quelques petites musiques si nous avons le temps.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front, c'est la revue de presse de l'April, emmenée par Luc Fievet et Manuel Charpentier.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 16, année 2011. Salut Manu.
Salut Lucas.
Alors, c'est le bordel, là, il y a du bruit, qu'est-ce qui se passe?
Eh oui, là, on est au pique-nique de l'April, donc tout le monde n'est pas là, malheureusement, mais on s'amuse bien, il fait magnifique.
Ouais, donc, parc de Vincennes, et il y a des joueurs de tarot à côté de nous, donc ça hurle un petit peu.
Donc, grosse revue de presse cette semaine, il y a 9 articles, on parlait un peu de tout, hein. Ventelier, on va parler de brevets, de logiciels espions, de pirate box, de gouvernement et open source, la fracture du monde numérique, Oracle et Open Office, la neutralité du net et des labos au service du bien commun, donc plein de bonnes choses.
Donc voilà, comme il y a pas mal de boulot, on va passer rapidement sur certains trucs. Histoire de parler un peu en détail d'autres choses plus intéressantes. En premier article, un article de PC Impact, Ventelier PCOS, interview de Johan Afria, de Rue du Commerce. Donc un article par Marc Ress. Alors, un article effectivement sur la Ventelier, intéressant parce que ça émane du responsable juridique de Rue du Commerce, qui a également un site qui s'appelle Top Achat, qui est un site sur lequel on trouve des ordinateurs installés sous Ubuntu. On a un revendeur qui donne sa position et qui explique quelle est sa position entre les constructeurs et sa position à lui, et un revendeur qui n'est pas hostile au logiciel libre.
Ouais, loin de là, hein. Je pense même que lui, il pense à ses clients et qu'il se dit, il aimerait bien, mais ce qui ressort de l'article, c'est qu'il est entre le marteau et l'enclume, et que derrière ça, c'est les constructeurs qui ont fait des accords avec des accords de licence avec Microsoft, hein, essentiellement, et qui redonnent leur ordinateur sous cette forme-là, sans se poser de questions. Et lui, en tant qu'intermédiaire, tout ce qu'il peut faire, c'est renvoyer les ordinateurs, si vraiment il y a besoin, au constructeur, mais bon, c'est la galère. Et c'est une structure qui est vraiment pourrie pour les utilisateurs, au final. Moi, je sais, hein, je m'en suis acheté un il n'y a pas longtemps d'ordinateur, c'est la galère. Enfin bon, c'est déjà une bonne chose si les revendeurs prennent ce point de vue.
En tout cas, la lecture de cet article est assez instructive. Alors, article suivant, ZDNet.fr, antitrust, le rachat de 882 brevets Novell est validé, mais drastiquement encadré, par Christophe Auffray.
Alors ça c'est une big news, c'est presque amusant. On en parlait il y a déjà pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de brevets de Novell, boîte qui est en train d'être rachetée. 882 brevets qui sont en train de se faire racheter par un consortium.
Voilà, donc c'est PTN, on en est parlé il y a quelques semaines, ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas parlé, donc c'est plutôt quelques mois qu'on en avait parlé. Et donc là c'est la suite.
Et Microsoft, Apple qui font partie de CPTN et qui font beaucoup parler d'eux, ça a fait peur à beaucoup de gens et notamment des associations qui sont pourvues devant les institutions. Et là, la décision vient de tomber. Oui, ils vont pouvoir acheter les brevets, mais les brevets vont être accessibles à toute la communauté du logiciel libre sous licence GPL.
Voilà, une bonne partie, en tout cas la grosse partie. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ne passent même pas dans leurs mains. Mais en tout cas, toujours considéré que cet achat de brevet visait à avoir des armes. Et dès lors que c'est du libre, c'est plus une arme.
Et là, c'est génial. En fait, il semblerait que c'est tous les brevets qui concernaient de près ou de loin du logiciel libre, notamment la virtualisation de serveurs. Et là, le juge a dû considérer que non, c'était trop dur de filer ça à des entreprises qui allaient casser le marché. Donc là, il a remis tout à l'égalité. Il a redonné les brevets à la communauté. C'est une grosse décision. Ça fait presque bizarre.
Une bonne nouvelle. Article suivant, je te laisse l'annoncer.
Alors c'est rue 89, logiciel espion dans les iPhones, Apple trop fermé pour être honnête. De la rédaction, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque là c'est une sorte d'article qui reprend une conversation dans la rédaction de rue 89.
Voilà, alors il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet, y compris dans la presse grand public comme lemonde.fr ou Libération, etc. Alors on s'est aperçu que l'iPhone enregistre les géolocalisations à intervalles réguliers dans un fichier et qui n'est pas crypté.
Et oui, donc ça fait beaucoup jaser. C'est pas crypté du tout, donc n'importe quelle application que vous installez peut savoir où est-ce que vous avez passé les dernières heures, les derniers jours.
Voilà, et là, le fichier est quand même caché. Donc cet article est un petit peu particulier. Alors oui, il y a une chose quand même qui est importante, c'est que depuis que cette affaire a été révélée, il s'avère que Android le fait également. Et donc là-dessus, il n'y a pas de jaloux. Et donc l'article est assez particulier par rapport à ce qu'on a pu lire par ailleurs, parce qu'en fait c'est la retranscription de discussions au sein de la rédaction de rue 89.
Et vraiment intéressante, parce que là on voit tous les points de vue, les gars ils font un ping-pong entre des arguments, et vraiment, vraiment bien creusé, bien fabriqué. Je trouve que c'est un article qui est amusant à lire, donc je vous le recommande.
Une forme originale, mais en tout cas ça parcourt bien les différents sujets et différents points de vue qu'on peut avoir. Donc là aussi un article... tout à fait intéressant à lire.
Ok. Alors l'article suivant est pas mal du tout, parce qu'on en parle depuis déjà pas mal de temps, les Freedom Box. Donc là c'est un article OVNI sur les traces de la Pirate Box de Micro Tokyo. Et la première image de cet article, c'est une sorte de lunchbox, hein, une boîte de déjeuner à l'anglaise, avec deux antennes qui dépassent et une tête de mort et des os. C'est une Pirate Box. Alors qu'est-ce que c'est pour toi ?
Alors pour moi c'est une sorte de petit serveur, une sorte de serveur Wi-Fi portable qu'on peut emmener et à partir duquel les gens peuvent se connecter pour récupérer les contenus qu'il y a dessus.
Et oui, les gens peuvent autour de ça, ils se créent un réseau virtuel local, pas connecté au reste du net. Et qui vous permet d'échanger ce que vous voulez, y compris, c'est ce qui est mis en avant, de la musique, de contourner Adopi.
Voilà. Alors la Pirate Box n'enregistre pas les adresses IP des gens qui se connectent dessus, on s'en doutait, ni aucune donnée. Et c'est un petit bout de réseau Wi-Fi portable. Bon, c'est assez rigolo, mais c'est quand même pas du contournement d'Adopi à l'échelle d'Internet.
Non, et puis alors la chose en plus à faire remarquer, c'est que ça coûte moins de 100 euros. Donc c'est fait par des chercheurs pour l'instant, c'est notamment fait par des Allemands. Et on a l'air de mettre ça en avant. Mais moi, ce que je vois, c'est que là, c'est une première base de la Freedom Box. Donc, c'est quelque chose qui peut que évoluer en bien et qui peut être utilisé par toi, par moi, par tout le monde.
Voilà, on pourrait par exemple diffuser du logiciel libre et de la culture sous licence libre avec ce truc-là, ça serait pas mal.
Oui, juste en ramenant notre lunchbox, notre boîte déjeuner et la posant un petit peu où on veut. C'est fun. Donc là, c'est un article qui t'avait bien plu, il me semble.
Alors, Data News, Open Source or Not Open Source, Subterfuge ou Analyse, par Ludo Sanen. Alors, j'aime bien cet article parce que c'est la réponse à un article qu'on a fait la semaine dernière, je crois, ou semaine d'avant, je ne sais plus. C'était un article écrit par un professeur d'université belge qui expliquait que la question de l'open source n'était pas très importante. L'important, c'était la qualité des logiciels, notamment ceux qu'on utilisait dans l'éducation.
Oui, c'est le professeur Carlos de Baker et qui, justement, avait fait toute une opinion parue dans Data News.
Voilà. Donc là, la réponse d'un député belge qui, en gros, démonte son argumentation. Notamment, sur deux points. Le premier, c'est de dire que le professeur en question part du principe que les défenseurs de l'open source, comme ils disent, veulent absolument forcer tout le monde à l'utiliser. Or, il dit c'est pas le cas.
Oui, c'est une caricature et rien de plus. On ne veut pas forcer les gens à utiliser du logiciel libre, ce serait contre-productif.
Voilà, et aussi sur la question de l'utilisabilité, ce genre de choses. Enfin, donc voilà, c'est un démontage assez intéressant, c'est rigolo de voir le jeu de ping-pong et de voir comment cette personne qui est quand même députée, c'est pas
un petit
militant de base.
C'est que ça remonte très haut dans les institutions et les gars sont capables de discuter de manière assez intelligente. Il faut qu'on remonte sur ce gars-là, c'est Ludo Sanen qui est le parlementaire flamand et sénateur et qui a l'air de bien connaître les problématiques de la communauté du libre. Moi j'applaudis, dès demain. Voilà. Et donc, bah, j'espère que ça va continuer et peut-être que ce genre de discussion va remonter en France.
Oula.
Donc, article suivant, c'est Sud-Ouest. Ils veulent effacer la fracture numérique, de Natacha Tuilier. Donc, c'est un article que j'aime assez mettre en avant parce que ça parle justement d'associations qui font un travail de récup sur les ordinateurs et qui reprennent les ordinateurs, qui reformatent tout ça, remettent du logiciel libre et les revendent ou les voire même les donnent. Donc, les ordinateurs qui en résultent ont un coût de 40 à 70 euros. Et c'est vraiment de la récup noble. Les logiciels libres bien mis en avant, on l'utilise au maximum de sa capacité, parce que, comme vous ne le savez pas forcément, eh bien, mettre un Windows sur certains ordinateurs, ça les fait ramer, mais de manière terrible. Mettre du logiciel libre, hein, une Ubuntu par exemple, eh bien, on peut mettre une Ubuntu sur du vieux matériel et refaire fractionner, remettre de la valeur dans ce vieux matériel, y compris des ordinateurs qui peuvent avoir 8 ans, 10 ans. Eh bien, ceux-là peuvent être mis sur des bureaux et bien fonctionner pour faire du web, du mail, du chat. Il n'y a pas de raison. Si vous avez des vieux trucs, il faut que vous les emmeniez dans des associations et voilà. Essayez de les repasser.
C'est parti de... Bon, y a plusieurs associations qui font du reconditionnement. C'est des choses qu'on a vues à différents endroits. C'est vraiment très bien. Ce que je retiens aussi de cet article, c'est qu'ils parlent de... Enfin, dans leur cible, sont les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un ordinateur. Et ils disent deux choses que je trouve très intéressantes. C'est que d'une part, ces gens-là savent s'en servir, que ce n'est pas du tout des sortes d'illettrés numériques. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un ordinateur neuf. Second point, c'est qu'ils se mettent très facilement au logiciel libre et que ça leur pose aucun problème d'en avoir et qu'ils sont très contents d'avoir quelque chose d'abordable pour eux qui leur permettront de faire tout ce qu'on fait avec un ordinateur. Et donc voilà, donc c'est très très positif et une initiative, alors en soi, ça, rien de révolutionnaire, ça se fait partout, mais c'est quelque chose de très utile et qui mérite d'être pointé du doigt.
J'apprécie toujours quand ça apparaît dans les médias, donc là, vraiment bravo. Donc, article suivant, développer.com. Alors, une grande nouvelle, Oracle laisse openoffice.org à la communauté. De nombreuses questions demeurent, donc de la rédaction.
Voilà, alors oui, c'est un peu la grosse nouvelle. On se souvient donc, Oracle rachetant Sun récupère toute une série de projets, dont OpenOffice. Et il y a eu ces derniers mois un fork, ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire une scission avec toute une série de développeurs qui sont partis en trouvant que, que Oracle avait joué la jeu trop perso. Oui, voilà. Ouais. Et puis bon, il y avait déjà du passif du temps de Sun et qui préféraient mener leur vie et faire LibreOffice. Et là, Oracle, grande annonce, dit désormais, Oracle. OpenOffice sera géré de façon purement communautaire. Ceci dit, cette annonce est très laconique, hein, y a pas énormément de détails et ça laisse beaucoup de questions en suspens.
Oui, hein, notamment, qu'est-ce qui va se passer par rapport à LibreOffice ? Est-ce que LibreOffice va récupérer la marque OpenOffice, par exemple ? Et est-ce que ça les intéresse de récupérer la marque OpenOffice ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment la gestion de la nouvelle communauté va se mettre en place ? Est-ce que c'est une deuxième communauté à côté de ça ? Est-ce que IBM va mettre son nez là-dedans ? Parce qu'en fait, il semblerait que c'est IBM qui est particulièrement intéressé sur OpenOffice, hein, parce qu'il le repackage sous d'autres formes et des formes commerciales. Et ce que disent Oracle, c'est qu'en fait, ils vont arrêter leur version commerciale qu'ils avaient sortie il n'y a pas très longtemps d'OpenOffice. Et à mon avis, simplement, ils se sont rendu compte que ça valait pas le coup, ils n'arrivaient pas à revendre ça aux entreprises et à faire de l'argent.
Voilà, alors il y a toute une autre série de questions, mais en tout cas, une nouvelle assez surprenante et plutôt bonne nouvelle finalement.
Ah, très bonne nouvelle, hein. Moi j'avoue que c'est super.
Alors article suivant, article de clubic.com, neutralité du net, l'Europe rend une copie bien timide. Alors, article d'Alexandre Laurent. Donc effectivement, ça c'est la grosse déception sur le sujet. Donc une députée européenne, donc Nelly Kroes, qui avait fait de grandes déclarations sur la question de la neutralité du net. Et qui, depuis un bon bout de temps, devait rendre un rapport et c'était toujours reporté, etc. etc.
Ah, et ça durait depuis vraiment pas mal de temps.
Voilà. Et là, le rapport est sorti, il est très, très, très décevant. Elle fait vaguement appel à la notion de marché en disant hop.
Oui, utilisez vos pieds pour aller d'un commerçant à l'autre, d'un marchand à l'autre, hein, et changer de fournisseur d'accès si vous n'êtes pas content de votre fournisseur d'accès.
Voilà, ce qui est très, très insuffisant quand on voit les lois qui se mettent en place, type Adopi, l'Opsi et le filtrage. Et ce qui existe déjà en téléphonie portable avec de l'internet qui n'en est pas, et de toute façon un nombre d'acteurs tellement petit que la question de la concurrence ça fonctionne pas. Et alors chose aussi intéressante, c'est que ce rapport il est sorti juste après un rapport qui est sorti en France qui lui est beaucoup plus intéressant.
Oui, je connais plus le nom de la personne qui avait sorti ce rapport, mais c'était des gens de l'UMP.
Et deux députés, il y a une députée PS, une députée UMP.
Donc quelque chose qui avait de la valeur parce que justement ça, c'était quelque chose d'assez important politiquement, il y avait du pouvoir, du poids politique derrière, et qui était très en faveur d'une neutralité du net que notamment la Quadrature apprécie. La Quadrature aurait pu écrire certaines parties de ces amendements, enfin de cette proposition de loi, enfin, ouais. Ou de ce rapport en tout cas.
Un rapport, oui. Et donc du coup, un peu l'impression que ce rapport européen est sorti à l'arrache à toute vitesse après le rapport français. C'est de peur de se faire déborder. Parce qu'après ça, le point de vue est difficile. Si on arrive 6 mois après un rapport qui pose vraiment les débats, et qu'on arrive en disant non, tout va bien, on passe un peu pour des crétins, quoi.
Et donc là, oui, clairement, c'est un nouveau rapport qui sort, qui est un contre-feu de ce rapport français. Bon, c'est un petit peu rageant, mais bon.
En tout cas, le rapport français mérite d'exister, donc c'est un bon départ.
Il faut espérer qu'il ne tombera pas à l'eau.
Alors, dernier article.
Oui, l'humanité.fr, des labos au service du bien commun, par Léo Koutelec. Donc un article dont on va avoir du mal de dire beaucoup de choses parce qu'il est très très complet. En fait, c'est quelque chose qui parle d'un livre sorti par le monde scientifique.
Donc Labo Planète ou comment 2030 se prépare sans les citoyens.
Donc de Jacques Testard, Catherine Bourguin, Agnès Sinaï, audition 1001 nuits. Donc l'article est assez long et assez touffu. Parle en gros du sujet du livre qui a l'air vraiment très intéressant. Moi, je compte me l'acheter et le lire. Et ça parle de la place de la science, du lien entre les principes du libre en général. Et c'est ce genre d'article qui fait le lien entre le libre et du savoir. La façon dont les experts s'accaparaient les décisions.
Oui, notamment en lien avec la démocratie et les choix de la société. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre en compte tous nos choix et arriver à faire peser nos voix, quoi, à un moment donné.
Voilà. Donc, sujet très très intéressant et très touffu, donc on va pas pouvoir s'étendre tout de suite.
Bon, en tout cas, lisez-le, allez jeter un œil, vraiment pas mal. Ils parlent de logiciels libres, bien sûr, sinon on serait pas dans leur vue de presse, n'est-ce pas? Mais vraiment, vraiment intéressant. Sur ce, on va vous laisser, on va retourner au pique-nique.
Voilà.
Hein, Luc, tu vas aller bronzer un petit peu, il fait beau.
J'ai déjà cramé. Bon, salut Manu.
Allez, salut Luc, à la semaine prochaine, Divergence.
Divergence numérique 93.9 sur les ondes de Divergence, mais aussi sur les ondes de Radio Escapades et puis de CKIA au Québec. Nous saluons nos amis de La Voix du Libre et nos auditeurs de partout sur la planète. À présent, il n'est pas là avec nous aujourd'hui dans le studio, mais il est là quand même. Au téléphone avec Pascal Rollier. Bonsoir Pascal.
Oui, bonsoir.
Tu es en vadrouille ces temps-ci, des vadrouilles qui t'ont emmené notamment participer à un quadrapéro. Qu'est-ce que c'est que ce quadrapéro?
Ah, le quadrapéro qui se situe à Paris, c'est un apéro régulier qui est fait par la Quadrature du Net. Donc, alors ça se passe dans des lieux comme par exemple le dernier qui se passait vendredi dernier, le 22 avril, et qui se passait donc au Loop, qui est un hackerspace qui est situé dans le 10e arrondissement de Paris, à côté de la place de la République.
Et donc la Quadrature y invite ses adhérents, ses sympathisants?
Alors invite tout le monde, puisque il n'y avait pas de restriction. Elle annonce ça sur son site, laquadrature.net, sur leur wiki. Ça donne la date, le lieu, et puis donc tout le monde est invité, que ce soit des contributeurs de longue date, simples intéressés par les sujets que défend la Quadrature, ou de nouveaux arrivants qui cherchent à participer davantage. Alors on donne les thèmes pour la soirée, puisque ça commence à partir de 19h, 18h et 19h pour le début des discussions. Là, vendredi dernier, c'était sur le récent rapport parlementaire sur la neutralité du net. Mmh. Donc ils y ont évoqué justement que le rapport incite à un Internet responsable. C'est le terme responsable qui les a assez surpris et choqués. C'est-à-dire qu'au-delà au-delà du média Internet, c'est plus l'usage du citoyen qui est visé et qui, évidemment, porte atteinte forcément à la neutralité de l'Internet lui-même, quoi. Mmh.
Est-ce qu'il y avait du monde à ce rendez-vous du 22?
Oui, il y avait à peu près une quarantaine de personnes quand même. Avec Jérémy Zimmermann, plus toute l'équipe de la Quadrature, puisqu'ils sont dispatchés sur différents projets. Chacun s'occupe de dossiers, comme par exemple la campagne de financement ou d'autres dossiers comme l'ACTA.
Voilà, la quadrature du net qui rappelons-le, se bat pour sur plusieurs fronts, qui touche évidemment, on va dire, les technologies de l'information, mais autour notamment du fait politique, hein, que ce soit au niveau européen ou français, ce qui veut dire que j'imagine qu'à ces quadrapéros, il y a autant des gens qui viennent du côté geek, des techniciens, des informaticiens, que peut-être des étudiants en droit ou des militants associatifs.
Oui, en fait, c'est vraiment tout public. Il y a ceux qui s'intéressent comme ça, qui veulent savoir plus que ce que c'est, d'autres qui s'impliquent beaucoup plus, ou d'autres personnes... de passage, comme par exemple un Allemand qui lui a aussi contacté son parlementaire pour en parler un peu plus et pour lui donner sa vision.
Mmh. Là, ça se passait au Loop, un hackerspace que tu nous présentais tout à l'heure. Je crois qu'ils ont un des locaux de 200 mètres carrés, je crois avoir lu ça.
C'est plus que ça en fait. C'est un bâtiment qui est en 8 étages de 200 mètres carrés, et il y a un niveau qui est le hackerspace, le Loop, où l'on y trouve différents utilisateurs, ou disons différents passionnés d'électronique qui font des petits montages, par exemple des petits lecteurs RFID assez sympathiques, où ils ont bricolé l'ouverture de la porte avec, comme des projets sur Arduino par exemple.
Un petit peu ce qu'on peut retrouver chez Kawenga pour ce qui nous concerne, nous ici à Montpellier, mais à une échelle parisienne.
Voilà, donc c'est ouvert à tous, pour montrer un peu patte blanche pour rentrer ou se faire connaître. En tout cas, c'est vraiment ouvert à tous, c'est assez sympathique, puis très accueillant, puisque justement, donc ils hébergent différentes réunions, que ce soit la quadrature ou nous qui avions demandé un espace de temps pour faire une réunion. Ils sont absolument très très ouverts.
Au niveau de France Wireless, tu veux dire?
Oui, c'est ça, oui, sur mm-hmm. Paris.
Alors, après Paris, tu as fait un petit tour en Alsace. Est-ce que tu as pu rencontrer quelques-uns des organisateurs des rencontres mondiales du logiciel libre?
Ah, pas encore. Ça va être samedi prochain, où justement on va faire un petit peu le point sur site tous les endroits qu'il y aura à équiper, ceux qui vont être disponibles, recenser les prises réseau, le réseau, puisque c'est plutôt notre partie, mm-hmm. Voir un petit peu comment ça va se passer, et puis faire un petit peu le tour de la liste des associations qui sont déjà inscrites, en sachant que vu la situation géographique et l'espace alloué, il y aura sans doute une factorisation de stands, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de regrouper différentes thématiques de stands, disons, différentes associations qui font la même thématique sur des stands uniques. Mmh, mmh. Un petit peu plus grand, bien sûr, mais comme ça permettra d'avoir une présence plus forte sur les associations, au lieu d'avoir des stands qui sont plus ou moins vides, ça dépend de la journée.
Donc on pourra faire un bilan de cette réunion un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que là, il reste un gros mois. La date des rencontres approche à grands pas. J'imagine que ça doit commencer à bouillonner un petit peu côté orga.
Oui, tout à fait. Alors, dans l'immédiat, ça va être l'ouverture du site rmll.info pour la partie 2011, avec le programme... les conférences sont en train d'être figées, donc elles ont été sélectionnées par les différents directeurs de thèmes. Ensuite, la partie réservation, très importante aussi pour les visiteurs.
Entre-temps, j'imagine que tu vas repasser par Montpellier.
Oui, la semaine prochaine, donc je pourrais en parler un petit peu plus de cette réunion d'organisation. Et puis la semaine d'après, c'est redéplacement sur Paris pour Solution Linux.
Voilà, Solution Linux aux alentours du 8 au 10 mai, c'est bien ça? Du 10 au 12, donc
voilà. Le lancement officiel des Remeuleux, puisqu'il y aura une présentation à ce sujet.
Bien écoute, très bien Pascal, on se dit à jeudi prochain.
Oui, à jeudi prochain.
Thank you.
C'était Autopista, une autoroute assez jazzy proposée par Jazz Bana sous licence Creative Commons by ND 3.0 que l'on retrouve bien entre autres sur dogmazic.net. On est au téléphone avec Félix de l'équipe de la Quadrature du Net. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on est avec toi au téléphone pour aborder un petit peu l'actualité de la Quadrature du Net qui, pour ceux qui l'ignorent encore sur Divergence Numérique, qui sont sans doute assez peu nombreux, se bat pour les libertés numériques, que ce soit à l'échelon des menaces hexagonales ou européennes, ou plus largement. Aujourd'hui, cette semaine, l'actu de la Quadrature, j'imagine que c'est quand même la campagne de financement que vous avez lancée pour bien supporter votre effort citoyen.
Oui, c'est un des aspects sur lesquels on travaille en ce moment. Effectivement, on a des problèmes pour boucler notre budget 2011 et au-delà, surtout l'année 2012 qui s'annonce être difficile, puisque la fondation qui nous soutient, qui constitue une part importante de notre budget, ne renouvellera pas son soutien, puisqu'elle a pour habitude de financer que des ONG sur 2 ans. Et là, on a eu une troisième année exceptionnelle, et donc il est probable qu'on n'ait plus ce soutien l'an prochain.
Voilà, donc vous lancez un appel à tous ceux pour lesquels vous vous battez, c'est-à-dire l'ensemble de la population, on va dire, avec peut-être d'autres pistes.
Ça va être à nous de faire l'effort de convaincre et de montrer notre utilité. Et puis c'est vrai qu'on a appelé les citoyens à participer à cette campagne de financement. Et puis on va aller voir aussi du côté, on regarde déjà du côté d'autres fondations pour continuer notre action et nous développer.
Alors, la neutralité du net a fait beaucoup parler d'elle ces jours-ci au niveau de la commission.
Oui, c'est un peu le gros dossier du moment, notamment de la semaine dernière et la semaine qui l'a précédée. On a eu la publication d'un rapport parlementaire très positif sur le sujet. C'est à l'automne que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avait mis en place une mission d'information, présidée par la députée Laure de la Raudière, qui est secrétaire au numérique à l'UMP, et Corinne Herrel, également députée PS. Mmh. Et toutes les deux ont mené, avec le reste de la mission, un travail de fond, en essayant d'appréhender autant que faire se peut les réalités techniques d'Internet. Et le résultat, c'est un vrai engagement en faveur de la neutralité du net, qui nous satisfait, et notamment un engagement assez courageux pour dénoncer les mesures de filtrage dans leur ensemble, et notamment lorsqu'elles sont appliquées de manière extrajudiciaire. Et donc là, on pense notamment à l'article 4 de la LOPCI, passé récemment, promulgué récemment, et qui vise à filtrer les sites pédopornographiques, et dont on sait que c'est parfaitement inefficace, et qui est un dispositif qui pourra être étendu par la suite. Donc les députés condamnent, la mission plus largement condamne de telles mesures, ce qui constitue un signal politique fort, qu'il semble y avoir en tout cas une prise de conscience de la part de nos élus, de certains de nos élus au Parlement, et il faut s'en réjouir. En revanche, sur cet enjeu de la neutralité du net, donc il y avait côté français, un appel à protéger ce principe fondateur d'Internet, un principe technique qui veut que le transporteur de l'information sur le réseau, donc l'opérateur du réseau, ne discrimine pas les flux en fonction du type d'information ou du type des personnes qui l'échangent. Donc un traitement égalitaire de tous les flux d'information. Les députés français ont appelé à protéger ce principe dans la loi. Et au niveau européen, la Commission européenne, elle aussi devait rendre un rapport qu'elle a rendu la semaine dernière, donc 7 jours à peine après la publication du rapport français. Et là, c'est la déception. Puisque on a vraiment une attitude très molle de la commissaire européenne en charge de ces questions, Madame Nelly Kroes. La Commission européenne est dans une position où elle dit en gros, si les fournisseurs d'accès à Internet se mettent à discriminer vos flux, à ralentir le peer-to-peer ou à vous faire payer plus cher de la vidéo HD ou de ce genre de choses, voire à bloquer carrément certains contenus, certains sites, certains protocoles, vous n'avez qu'à aller voir ailleurs et changer d'opérateur. Donc en gros, on nous dit que la concurrence va suffire à protéger la neutralité du net, ce qui est une ineptie totale. Et donc une plus grande déception de ce côté-là, mais bon, on va essayer de mettre en avant le rapport français pour expliquer au pouvoir public européen et au-delà dans les autres États membres que qu'il faut protéger ce principe et que voilà, si on veut bien prendre en compte l'intérêt général et les réalités techniques et sociales du réseau Internet, c'est vers une protection législative de la neutralité qu'il faut aller.
Là, là encore, sur ce dossier, on voit bien se reproduire le sempiternel bras de fer entre le Parlement, on va dire démocratiquement élu, et la Commission qui ménage souvent ses intérêts, comme on l'a vu avec le fait qu'ils aient renouvelé leur contrat avec Microsoft sans... va dire sans faire d'appel d'offres en bonne et due forme, quoi.
Ouais, tout à fait, mais c'est un peu effectivement un schéma qui se répète à la fois au niveau français, au niveau européen, où les parlements en général sont plus ouverts, plus démocratiques dans leur fonctionnement et donc sont plus souvent amenés à défendre l'intérêt général, alors que les exécutifs fonctionnent davantage dans l'ombre. Donc la Commission européenne, c'est un peu l'exécutif, le gouvernement européen, et donc ces exécutifs semblent plus en proie au lobby divers et variés, notamment en l'occurrence le lobby des télécoms, puisque voilà, en fait, l'idée c'est qu'au niveau européen, les opérateurs, et ailleurs d'ailleurs, les États membres font valoir que parce qu'ils doivent développer des nouvelles infrastructures, fibres optiques, etc., qui vont coûter très cher, il leur faut développer de nouveaux modèles commerciaux basés sur la discrimination, ce qui est absolument faux. Plusieurs études montrent qu'au contraire, en discriminant les flux, en mettant en cause la neutralité du net, on désincite l'investissement dans le réseau et dans l'accroissement des capacités en bande passante. Donc voilà, ces arguments ont semblé trouver un certain écho au niveau de la Commission, et c'est là que c'est regrettable. Il va falloir agir au niveau du Parlement européen et au niveau des États membres maintenant pour faire avancer ce dossier. Je crois que oui, la Commission européenne, il ne faut pas trop en attendre sur cette question à court terme en tout cas.
Pour revenir dans l'Hexagone, vous parlez aussi bien de la fameuse CNN, qui n'est pas la chaîne d'information bien connue, mais le Conseil national du numérique. On ne s'attendait pas à ce que ça soit un truc exemplaire, vu que ça sort, on va dire, dans une période préélectorale. Là aussi, on va dire, une déception qui surprend personne.
Non, une déception qui ne surprend personne et surtout pas nous. Par contre, on a pu observer une certaine surprise des médias hier lorsque Nicolas Sarkozy, dans son discours, a fait une sorte de mea culpa sur Adopi. Et voilà, les médias se sont vite empressés de dire que Nicolas Sarkozy voulait remettre à plat l'Adopi, ce qui n'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, il y a eu un communiqué de l'Élysée en fin de journée hier qui expliquait que Nicolas Sarkozy soutenait encore tout à fait la riposte graduée incarné par la DEPI et plus de répression dans la guerre contre le partage d'œuvres culturelles en ligne. Et oui, globalement, voilà, l'installation de ce Conseil national du numérique, c'est vraiment une gesticulation politicienne à un an des élections. Le bilan de Sarkozy en matière d'Internet, c'est quoi? C'est la DEPI et une censure historique du Conseil constitutionnel en disant qu'on ne peut pas couper l'accès à Internet et donc restreindre la liberté de communication au simple... pour faire respecter un droit d'auteur complètement obsolète. C'est le bilan de Sarkozy, c'est également la LOPSI, le filtrage administratif du net. C'est les appels à l'interdiction de l'hébergement de Wikileaks en France, alors qu'aucune décision judiciaire ne venait condamner le site bien connu. Et j'en passe et des meilleurs. On peut encore penser au décret LCEN sur la rétention des données des hébergeurs publié récemment. Et donc voilà, globalement un bilan calamiteux, un gouvernement qui n'est absolument pas au fait des réalités techniques et sociales d'Internet et qui essaie de laver plus blanc que blanc à quelques mois des élections.
On peut quand même mettre à l'actif du gouvernement Sarkozy d'avoir quand même trouvé un antivirus dans OpenOffice, mais je plaisante. Peut-être pour terminer, au niveau de l'ACTA, où en est la situation ?
Ben, c'est un peu difficile ça, en termes de campagne pour nous en ce moment. C'est difficile de communiquer dessus puisque on est un peu dans une période morte, en ce sens que l'ACTA, les négociations sur cet accord international anti-contrefaçon qui vise en partie à instaurer un filtrage du net pour empêcher le partage d'œuvres. Les négociations sont finies, donc on attend la signature de l'accord par l'ensemble des États partis à cet accord. Et puis après viendra la ratification par les parlements et les organes législatifs nationaux. Et donc il n'y a pas grand-chose qui se passe. On essaye d'obtenir des documents préparatoires, on essaye de comprendre enfin voilà, qu'est-ce qui a motivé la négociation de cet accord et pour dénoncer son caractère complètement disproportionné. Mais donc c'est clair que lorsque l'ACTA va être soumis à ratification au Parlement européen et probablement aux États membres, puisqu'on ne sait pas encore exactement comment la procédure va se dérouler, mais il y aura sans doute une double ratification à la fois européenne et nationale. Il faudra mettre le paquet et contacter nos élus pour leur faire comprendre à quel point cet accord est dangereux, va à contresens de l'histoire et doit être rejeté.
Merci pour toutes ces infos. On précise que on va prendre un rendez-vous relativement régulier avec la Quadrature du Net dans Divergence Numérique. Parce que c'est vrai que l'actualité bien l'exige. Et en attendant, on vous souhaite de bon travail. On rappelle que sur laquadrature.net, les gens peuvent vous soutenir financièrement, en toute transparence, et que s'il y a des causes qui valent bien le coup, celle-ci en est une.
Merci pour tout. Bonne soirée.
À très bientôt.
Qui manque pas de couple, c'est facile, c'est Black Poetry qu'on écoute dans Divergence Numérique. Musique en licence, c'est Réaction. À présent, nous recevons Jean-Roch Rossi. Bonjour Jean-Roch.
Bonjour Gilles.
Alors on te reçoit pour parler de Storalka, qui est une URL, une entreprise, d'ailleurs ça veut dire quoi, une entreprise unique à responsabilité limitée.
Responsabilité limitée, bon, on peut rentrer dans les termes techniques, mais la petite particularité c'est que je suis le seul dans l'entreprise.
Voilà, alors tu es ingénieur système, tu as roulé ta bosse dans certaines grandes entreprises, avant finalement de proposer, de monter cette URL, Storalka, qui propose le premier serveur low cost, haute disponibilité et tolérant aux pannes, à destination bien des petites et moyennes entreprises ou des associations, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce risque, puisque finalement monter son propre projet, c'est toujours quelque part prendre un risque?
Oui, effectivement, il y a un certain risque. En fait, au départ, je n'ai pas souhaité monter une entreprise, mais c'est plutôt un produit que j'avais développé pour moi-même.
D'accord.
Par rapport à un besoin que j'avais, parce que j'utilise, comme tout geek qui se respecte, un petit serveur à la maison qui me permet d'archiver mes photos, toutes mes données, je passe mes mails par là, etc. Et quand on est loin et qu'il arrive quelque chose sur le petit serveur à la maison, il n'est pas disponible, qu'est-ce qu'on fait ? On croise les doigts et puis on se dit, on peut pas accéder à ces informations et c'est très frustrant. Donc j'avais ce besoin-là d'avoir quelque chose qui soit fiable et qui puisse tourner quelle que soit la situation, entre guillemets, hein, puisqu'il peut toujours y avoir une guerre nucléaire et dans ces cas-là, il n'y a plus de données. Donc une fois que j'avais ça qui fonctionnait, je me suis dit, mais finalement, ça n'existe pas pour les particuliers. Pourquoi pas essayer de le vendre et puis d'en faire profiter d'autres personnes.
Et donc, qu'est-ce qui... parce que c'est un marché sur lequel on trouve pas mal d'entreprises, hein, qui soit proposent aux gens, comme c'est très à la mode en ce moment, de louer comme un abonnement une machine et puis d'y faire un petit peu ce qu'on veut, mais à distance. Ce qui, quand même, entretient le syndrome de dépossession des technologies où les gens, du moment, ils payent, ils louent et puis après, ils vont... Comme ça, ils ne voient pas ce qui se passe. Là, c'est dans une démarche très libriste de proposer aux gens finalement de faire eux-mêmes, de s'emparer eux-mêmes des technologies, plutôt que finalement d'aller voir sur le gros du marché, entre guillemets.
Alors effectivement, c'est deux offres, je dirais, qui sont un petit peu complémentaires, dans le sens où quand on ne veut pas rentrer dans la technique, c'est vrai que louer chez un grand provider, le serveur, il s'occupe de tout, des sauvegardes, tout ça, tout ce qu'on a à faire, c'est y accéder et puis faire son petit travail. Beaucoup de personnes souhaitent encore garder ça chez eux, c'est-à-dire un disque dur, ils sauvegardent leurs données sur un disque dur qu'ils pluguent sur leur ordinateur tous les jours, mais le disque dur, ils ne se verraient pas le donner aux voisins.
Oui.
Ou ni le donner à une banque ou quoi que ce soit. Ils aiment bien l'avoir avec eux. C'est vrai que moi, je suis plutôt de ce type-là. Je fais plus confiance au disque dur que j'ai là, que j'ai à la maison. Je sais où il est. Si j'en ai besoin, je le prends, je le branche.
Surtout en ces temps où les gens, sans le savoir, des fois, finalement, font des métadonnées sur eux-mêmes qu'ils étalent au grand jour, sans en ignorant totalement, finalement, ces données, une fois qu'on les a mis sur son Facebook, par exemple, à qui elles appartiennent, ils ne savent pas. Quand on leur dit que ça appartient à Facebook, ils sont tous surpris. Enfin bon, on assiste en ce moment au fait qu'il y a un gros business qui se monte sur le fait que les gens, finalement, ils posent des contenus, des choses qui leur appartiennent et qui, finalement, leur appartiennent. Tiennent plus vraiment, quoi.
Ouais, effectivement, ça c'est un nouveau problème qu'on découvre tout doucement. Mais bon, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on accepte à ce moment-là de dire, quand je poste des photos sur Facebook, je sais que je vais plus contrôler ces photos. Ou pas autant que je le souhaiterais. Donc quand on veut pas se retrouver dans la situation, on se dit, ah mince, les photos...
Tiens, ma photo de vacances a été utilisée pour une pub pour le Club Med. Oh bah zut.
Des cas comme ça va encore. Ça peut passer.
Oui, voilà, il peut y avoir pire. Donc, pour revenir à Storalka, le concept, c'est une machine physique, tout le monde l'aurait bien compris, mais qui est déjà préconfigurée, etc., pour être à la fois, on va dire, utilisée dans le cadre du réseau local qu'on a chez soi, mais qui aussi peut avoir une partie publique. Et tout ça d'une façon très cloisonnée qui garantit justement la vie privée des gens.
Oui, alors en fait, je me suis basé sur énormément de logiciels open source qui permettent tous ensemble de faire ce type de travail. Donc c'est des technologies assez à la mode en ce moment chez les informaticiens, tout ce qui est virtualisation par exemple. me permet d'avoir des machines donc, qui tournent sur les mêmes serveurs physiques, mais qui font des choses complètement différentes. Et donc, si un des serveurs virtuels est attaqué, quel que soit le problème, dans ces cas-là, ça ne touchera pas les autres serveurs.
Voilà, c'est ce qu'on appelle voilà, la virtualisation pour ceux qui sont un peu perdus. Là, c'est dans un seul ordinateur, on fait comme s'il y en avait plusieurs, en fait, ce qui permet de gérer un peu plus simplement bah, justement l'activité de chaque machine virtuelle. C'est bien ça?
Alors, plus simplement, c'est peut-être pas le bon mot, mais je suis d'accord. Enfin, pour moi, c'est plus simple, effectivement, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être un peu compliqué. C'est-à-dire, on a un système d'exploitation et on en fait tourner plusieurs. Mm-hmm. Mais quel est l'intérêt? Enfin, ça fait un peu bizarre d'avoir à gérer plusieurs systèmes plutôt qu'un seul. Mais finalement, quand on divise comme ça, eh ben, on a chacun fait une tâche particulière et on sait qu'on peut gérer plus facilement cette tâche-là, mm-hmm, par rapport à ce serveur-là. Mm-hmm.
Alors, il y a aussi, bah, j'imagine, la possibilité de customiser plus ou moins ce dont on aura besoin. Là, en ce qui concerne, on va dire, le côté matériel de la machine, c'est des machines qui sont proposées avec des capacités de stockage variables, qui ont une très faible empreinte énergétique, puisque là, tu arrives à 75 watts, là où la plupart des alimentations de PC en font déjà 400 ou 440.
Oui, enfin c'est 75 utilisables. C'est vrai que quand on lit 400 sur un PC, c'est le 400 qui peut fournir au maximum.
Oui,
après,
bien sûr,
faut voir quand il est plugué sur le courant. Donc, il est similaire à peu près, un petit peu en dessous à un PC de bureau standard. Mmh. Mais bon, sachant qu'à l'intérieur, il y a deux machines physiques. Vraiment, il y a deux cartes mères, deux processeurs, deux disques durs. Tout est en double. Justement pour faire cette haute disponibilité.
Et qui sont livrés donc avec 4 gigas de RAM, avec des Atom Dual Core 1 giga 6, donc le tout en double, oui. Et puis avec bon, le réseau qui va bien, etc. Et c'est des machines que tu assembles toi-même?
Oui, effectivement. Quand je reçois une commande, donc j'assemble tout. Le matériel, c'est du matériel standard, ce qui permet d'avoir aussi des coûts moins élevés. Hein. C'est des cartes mini TX Atom. Quelque part, je dirais que tout le monde, quelqu'un qui est passionné, pourrait le faire lui-même. C'est ce que j'ai fait moi, ça m'a pris un an. Ce que je fais gagner aux gens, c'est ce temps de travail que j'ai fait, le développement, d'arriver à un bon produit.
Et puis finalement, la fiabilité aussi, puisque l'avantage d'avoir affaire avec une entreprise avec un salarié unique, bah, c'est qu'on ne se fait pas balader entre le service SAV, le service atelier, le service commercial, ou le service, je ne sais pas, le service AT ou le service à poisson. Donc là, bah, pour les gens qui veulent avoir confiance, finalement, c'est même si du coup, ça va te forcer, si ça commence à marcher, peut-être à recruter à terme, mais en tout cas à te multiplier un petit peu, ça aussi c'est important pour les gens finalement.
Oui, effectivement, tu as tout à fait vu juste, il y a plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse un petit peu tout. Ça me permet aussi de savoir ce que les gens, ce qui leur plaît pas, ce qui rend bien, quand il y aura des problèmes, et de l'arranger, puisque c'est moi qui développe aussi le serveur. Donc il faut aussi que ce soit un serveur qui soit utile, enfin, je veux dire, les gens ils en ont une utilité, ils attendent quelque chose de ce serveur-là, donc il faut que ça puisse rendre ce service, cette attente.
Mmh, tout à fait. Donc tu cibles principalement bah, les petites et moyennes entreprises, les associations. Est-ce que j'imagine qu'il y a aussi une partie de formation que tu dois dispenser aux clients?
Alors, oui, effectivement, il y a une formation. C'est un petit peu compliqué parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire pour le moment, pour être sincère, comme je suis tout seul dans l'entreprise. Donc j'ai essayé de faire en sorte que l'interface d'utilisation soit le plus simple possible, de façon à ce que quelqu'un qui ait un minimum de compétences puisse y arriver. Donc c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, pour le moment, ne pourra pas utiliser ce serveur-là. Il a quand même une nécessité
qu'il apprenne quelques petites choses.
D'avoir, voilà, c'est-à-dire un technicien en informatique s'en trouvera très bien, il sait où cliquer, voilà, il y a un serveur virtuel, il sait ce que c'est, configurer une adresse IP, ce genre de choses. Donc, C'est quelque chose qui peut être aussi intéressant, donc d'ailleurs je lance un petit message, des partenariats, c'est-à-dire des techniciens, des petites sociétés qui elles vendent à des clients qui ne sont pas du tout dans l'informatique, qui pourraient être intéressés par ce produit-là, pour être des revendeurs, des partenaires, c'est quelque chose qui effectivement m'intéresserait beaucoup.
Voilà, c'est un modèle économique où tu cherches pas nécessairement à tout posséder dans on va dire la distribution, etc. Tes clients peuvent être aussi des assembleurs, des gens qui ont pignon sur rue, qui ont déjà une clientèle et qui vont se dire tiens, bah ça c'est quand même une machine bien foutue, économique, et du coup tu vas peut-être aussi avoir des adeptes auprès des revendeurs en quelque sorte.
Ah oui, je le souhaite bien. J'aimerais bien.
Au niveau des tarifs, bon, c'est des machines, on l'a dit, hein, double proc, etc. Donc des vrais serveurs informatiques. Ça tourne aux alentours du millier d'euros. Pour arriver à ça, est-ce que tu as regardé un petit peu, j'imagine, ce qui se faisait à côté, chez les gros, chez les moins gros, pour arriver justement à être concurrentiel?
Alors c'est une question pas évidente dans le sens où un produit comme celui-là n'existe pas. Je suis le seul à le faire, même à l'étranger je n'ai pas trouvé quelqu'un, sinon je l'aurais pris pour moi et puis je ne me serais vraiment pas cassé la tête. Donc des serveurs qui sont comme ça sous forme de cluster, bah chez HP, chez IBM, tout ça c'est à partir de 200 000, 300 000 euros, donc ça n'a rien à voir, c'est pas le même clientèle et c'est pas la même puissance non plus. Donc en fait je me suis plus basé par rapport à ce que le serveur me coûte à produire, c'est-à-dire que moi j'achète tout le matériel, je l'assemble, et après, bien sûr, j'essaye d'avoir un petit quelque chose de façon à ce que je puisse en vivre.
Oui, tout à fait.
Mais pour le moment, c'est vrai que ma marge est très faible, donc j'achète aussi en petite quantité, donc peut-être que les choses vont évoluer, ça je ne sais pas encore, mais le prix, je sais qu'il est déjà, pour moi, compétitif. Peut-être que HP pourrait faire quelque chose de plus intéressant si un jour ici
il s'intéressait à ce segment de marché-là. Oui.
J'espère pas, pas tout de suite.
On ne peut pas dire que le cœur de cible des grosses sociétés d'informatique soit le tissu associatif ou les PME. Et quand ça l'est, on leur vend en général des armes de guerre qui sont plutôt dimensionnées pour BNP Paribas que pour leur petite entreprise qui ne connaît pas la crise, mais qui la connaîtra grâce à ça. Et alors aujourd'hui, on peut considérer que avec les politiques publiques qui utilisent de plus en plus du logiciel libre, etc., on sent bien qu'il y a de plus en plus de SS2I qui ont tendance à se dire on pourrait aussi être une SS2L, hein, à pratiquer le libre, etc. Ou des assembleurs qui se disent tiens, de plus en plus de gens me demandent des machines sans système d'exploitation ou avec du Linux déjà installé, même si le vent tourne très lentement. Ça pourrait effectivement est-ce qu'aujourd'hui parmi les, je sais pas où tu en es puisque c'est tout récent, hein, je crois que tu as créé la société, c'était à l'automne dernier, c'est ça?
Oui, c'était en octobre. Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà des clients et est-ce que parmi ces clients, il y a, par exemple, des gens qui sont des SS2L ou
non,
ou quoi?
Pas du tout. Pour le moment, je n'ai fourni le serveur qu'à des particuliers que je ne considère pas encore comme des clients, mais plus comme des bêta-testeurs.
D'accord.
D'ailleurs, je suis toujours intéressé si des personnes seraient intéressées à voir le produit, à le tester, parce que bien sûr, comme il est assez récent, on découvre, je dirais, plus des choses à améliorer que des gros problèmes, puisque pour le moment, enfin,
le gros du travail a été fait sérieusement.
Oui, voilà. on peut toujours améliorer de toute façon en informatique. Donc, oui, les sociétés, pour le moment, je n'ai pas encore eu l'occasion de...
Ouais, voilà. Il faut lancer l'appel et dire à ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés que ben, c'est storealca.com sur lequel on peut et te contacter et puis en apprendre plus long sur cette société et puis le produit qu'elle propose. Donc là, en fait, il y a une bonne part de communication, j'imagine, sur laquelle tu es et tu commences un petit peu à communiquer, à voir un petit peu ce que disent les gens.
Voilà, ce qu'il faut faire. En fait, moi, je suis un technique.
Ouais.
Je suis un ingénieur, donc j'aime bien être dans ma technique. Je fais mon produit, je suis passionné. J'ai mis un an à le développer. Et c'est vrai que là, découvrir un petit peu cet aspect plus commercial et quelque chose d'assez nouveau où je suis peut-être pas très bon, les choses vont arriver petit à petit, je ne sais pas.
Mais tu peux toujours te faire aider.
Voilà.
Eh ben écoute, je te remercie de nous avoir parlé de tout ça. On aura peut-être l'occasion justement de faire un point, puisque c'est intéressant finalement de suivre le parcours d'une entreprise comme ça qui se crée il y a 3-4 mois, qui propose des produits basés sur du libre, et j'imagine avec de l'éthique dans le modèle économique, puisque c'est souvent le cas, pour pas dire toujours, dans le libre. Et puis souhaitons que d'ici là il y ait des ennemis, des gens qui disent ah, il nous a piqué le marché, etc. On verra bien.
D'accord.
Merci beaucoup Jean-Roch, à bientôt.
Merci à toi.
Et voilà pour cette divergence numérique. Il ne nous reste malheureusement, exceptionnellement, et c'est promis, on le refera pas la semaine prochaine, mais plus le temps de détailler les divers rendez-vous des agendas du libre, agendadulibre.org, agendadulibre.be ou agendadulibre.qc.ca pour tous les libristes qui retrouveront sur ces trois sites les rendez-vous français, belges ou québécois, ou même canadiens. Allez, n'ayons pas peur des mots. On vous souhaite une semaine autant couleur, et surtout, comme à l'accoutumée, restez libres. À la semaine prochaine, Pascal Rullier sera de retour dans l'antre divergent. Terror States. Terrorist Networks. Terror States.